pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capifoot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
De nombreux jeunes Congolais se retrouvent au chômage après leurs études universitaires. Face à ce constat, bon nombre d'experts voient dans l'entrepreneuriat une porte de sortie à cette crise. Cependant, l'esprit d'entreprendre manque encore chez plusieurs jeunes. La crise économique, le manque de liquidité, la peur de l'échec, les tracasseries et bien d'autres raisons freinent leurs élans. Alors que faire ? Pour susciter l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes, Michel Karacha est DG des Délions, directeur général des Délions. Il est également coach. Hein. Michel Karacha, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, vous êtes directeur général de Délions. Qu'est fait Délions exactement ?
Ben, nous sommes un petit cabinet de consultance et pour le moment, nos services sont vraiment focalisés à la PME. Donc, nous disons que nous voulons accompagner les PME de A à Z.
Voilà. De A à Z. Hein. Voilà. Alors aujourd'hui, je le disais tout à l'heure dans l'introduction, beaucoup de jeunes sont sans emploi, mais bon nombre d'experts pensent que l'entrepreneuriat, c'est la porte des sorties face à cette crise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet?
Oui, effectivement, j'adhère à ce point de vue. Quand vous regardez des pays comme le nôtre avec une démographie assez particulière, lorsque vous avez des taux de croissance de population de l'ordre de 3%, un peu moins de 3% comme c'est le cas de la RDC, ça veut dire que chaque année, vous avez une grappe de jeunes qui atteignent l'âge d'entrée sur le marché de l'emploi, ça veut dire la tranche à partir de 16 ans et au-delà, donc 16 jusqu'à 24 ans, c'est l'âge d'entrée sur le marché de l'emploi. Et quand vous regardez cette pression démographique avec la réalité du parc économique existant en termes de capacité d'absorption de tous ces jeunes qui rejoignent le marché, c'est clair qu'il y a un gap. Et donc, au lieu de continuer de réfléchir en se disant, ben voilà, venons-nous aussi allonger la liste de ceux qui demandent de l'emploi, il est clair qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise devrait commencer à réfléchir autrement, ne pas seulement regarder vers la grande entreprise, ne pas seulement regarder la possibilité de demander de l'emploi, mais plutôt réfléchir sur comment créer des emplois, comment créer, matérialiser des opportunités qui existent sur le marché.
Mais certains se plaignent, disent qu'on n'a pas été formé à la création d'entreprise, mais plutôt on a été formé à être demandeur d'emploi.
C'est vrai que notre modèle social, malheureusement, il véhicule beaucoup la valeur de l'homme par, entre guillemets, je le dis comme ça, la valeur par la carte de visite. Ça veut dire que, dites-moi pour qui vous travaillez, je saurai comment vous respecter. Ce n'est pas que le système éducatif, le système scolaire, mais c'est aussi les valeurs que nous avons héritées de nos parents et peut-être même de la génération d'avant. On dit toujours, papa n'a vu ce salaire en accompagné mon aîné. Ça veut dire que,
voilà. Papa n'a vu soit directeur, il est directeur quelque part.
Et exactement.
Et là, vous êtes considéré dans la société.
Vous êtes considéré dans la société. Alors qu'aujourd'hui, moi, je suis de ceux qui pensent, et je remercie Radio Capi pour cette opportunité, que le plus important, ce n'est pas le nom qu'il y a sur sa carte de visite, c'est qu'est-ce qu'on est capable de créer soi-même et de porter devant. C'est ça le plus important. Je peux être tout simplement, ben je vends des beignets devant chez moi, mais dès l'instant où je commence à réfléchir, je suis une maman, je vends des beignets devant chez moi, dès l'instant où je commence à réfléchir comment mettre 4 ou 5 mamans ensemble, on prend un parasol, on met des bacs de Coca-Cola et on prend un petit uniforme voilà, qui nous représente, c'est déjà une idée d'entreprise. Et là, je pense qu'on est plus respecté que celui qui va juste attendre d'aller balayer, voilà, je n'ai rien contre le balai, mais voilà, c'est une façon de dire que nous devons valoriser les petites initiatives que nous avons et en faire réellement des sources de revenus, des sources d'emploi. C'est ça qui nous manque encore au Congo et voilà, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de pousser ce combat-là aussi.
Alors, si je comprends bien les causes du manque de cet esprit d'entrepreneuriat, vous avez indexé d'abord le modèle social.
Il y a le modèle social. Il y a le système éducatif. Les deux, effectivement, ont se combiné et continuent de véhiculer cette idée-là comme quoi il faut travailler quelque part, il faut travailler pour une entreprise, et pas forcément prendre le risque de démarrer sa propre idée.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour capaciter ces jeunes, les jeunes à voir les choses autrement et à se lancer dans l'entrepreneuriat?
Oui, je pense qu'il faut commencer d'abord dans nos propres familles, Si aujourd'hui dans nos maisons, par exemple, on encourageait nos jeunes gens qui ont du talent pour la coiffure, voilà. Moi en tant que papa, mon fils a un talent de coiffure, je lui dis voilà, installe-toi là. Moi, mes amis, je vais commencer à les inviter tous les jours. Coiffe-nous les dimanches, gagne un peu d'argent. Si nos jeunes sœurs qui savent cuisiner, elles étaient encouragées à partir de la maison d'utiliser ce talent-là, par exemple, pour démarrer des services traiteurs, des livraisons dans des entreprises, des livraisons même dans leurs propres églises. Il faut d'abord que dans la famille, qu'on accepte que les jeunes doivent créer et pas seulement attendre. Pendant longtemps, on a vécu avec cette idée où dans nos familles, on disait « Yotanga kaka, va étudier, emmène-nous le diplôme, le reste, ça nous regarde. » Non, il faut plutôt étudier, c'est bien, mais regarde qu'est-ce que tu crées à côté, qu'est-ce que tu crées avec tes mains, qu'est-ce que tu crées avec ta tête, qu'est-ce que tu peux apporter de plus, qu'est-ce que tu peux, dans tes passions, qu'est-ce que tu peux en faire un métier et gagner de l'argent de par toi-même avant que quelqu'un d'autre ne te confie un travail. Il faut que ça parte donc de nos familles d'abord. Après, il y a le relais social, c'est les églises, c'est l'école. Il faut que tous ces mécanismes-là aussi ensemble concourent au fait que un jeune qui a des idées ne soit pas découragé. Un enfant qui sait bricoler, une jeune fille qui est très habile de ses doigts, ne la découragez pas en lui disant que ça n'amènera nulle part, qu'elle doit finir secrétaire de direction quelque part. Non, si elle a des doigts de fée, ben ça peut être qu'elle fabrique juste des poupées avec des pagnes, mais c'est des poupées qui vont peut-être la rendre millionnaire demain. C'est des poupées avec lesquelles elle va peut-être créer 500 jobs plus tard. Pourquoi la ramener à devenir secrétaire? Donc il faut que le relais social aussi soit très bon. Après, maintenant, vous avez la superstructure. Pour moi, la superstructure, je vois le secteur privé. Il faut que le secteur privé encourage les initiatives locales, mais au-dessus aussi que tout ce qui est étatique, organisme d'État, aussi contribue à encourager les initiatives locales et surtout les initiatives de jeunes.
Voilà. Donc tout doit commencer par la famille. Or nos parents, comme vous le savez, n'ont pas cet esprit-là, entrepreneurial. Donc il sera difficile déjà au niveau familial d'encourager les jeunes.
Oui, malheureusement, il y a pas de révolution, encore moins de révolution de mentalité qui se font dans la facilité. Il faut qu'à un moment donné nous rendions compte. Nous ne pouvons pas continuer de pousser nos jeunes vers des filières universitaires juste pour qu'ils continuent de chômer. On a fait récemment, il y a un chiffre qui a été véhiculé où on disait que un parent entre la première graduée et la dernière année d'université, c'est au moins 4 000-5 000 $ d'investis dans les études, même localement, n'est-ce pas? Mais combien de jeunes vous pensez qui sont talentueux, qui n'ont peut-être pas le potentiel d'aller jusqu'au bout de l'université, mais sont obligés d'y aller pour faire plaisir aux parents? Et vous pensez que si ces jeunes gens demandaient aux parents d'investir, même de leur prêter la moitié de ce qu'on leur donne pour faire l'université, mais pour démarrer une idée de salon de coiffure, une idée d'atelier de
Les jeunes peuvent avoir l'idée des salons de coiffure, mais on lui dit non, tu dois aller faire la médecine. Parce qu'on estime que devenir coiffeur, c'est rabaisser.
Exactement. Pourquoi? C'est parce que c'est ça le rêve du parent. Malheureusement, c'est ça. C'est aussi l'un des revers de la médaille sociale. C'est que des fois, les parents poussent les enfants dans des filières pour leur honneur à eux, pas pour les talents de l'enfant. Quels sont les talents de l'enfant? Si vous avez un enfant qui est doué, qui avec la musique, vous sentez que chaque fois qu'il touche à un instrument, il fait quelque chose de magnifique. Vous avez un enfant qui a des mains habiles. Il vous dit voilà, moi je peux dessiner, je peux concevoir des choses. Mais est-ce qu'il ne peut pas en faire un métier? Est-ce que de ce métier, il ne peut pas recruter d'autres personnes qui vont travailler pour lui plutôt que de l'envoyer s'ennuyer pendant 5 ans, même s'il vous amène le diplôme, il a l'esprit, il a les capacités intellectuelles pour avoir ce diplôme, Donc, vous créez un diplômé en économie, mais pas un économiste. Vous créez des diplômés en droit, mais pas des juristes. On a des diplômés en médecine et pas de médecins. Parce que ce n'est pas leur passion, ce n'est pas leur vocation. Leur vocation était ailleurs pour faire plaisir aux
parents. Ils ont fait ça pour faire plaisir aux parents.
Exactement, exactement. Donc, c'est un défi que, surtout notre génération, nous commençons à devenir des parents. Moi, je parle des enfants de ceux qui étaient nés avant l'indépendance. Donc, notre génération, la génération de ceux qui sont nés, je sais pas, milieu des années 60 jusqu'à années 80, nous commençons à avoir des enfants. C'est à nous aussi de réfléchir différemment. Susciter quelque chose, être à l'écoute, plutôt que de vouloir transférer son rêve directement dans la tête de l'enfant.
Kapala nous appelle des Moba, gentil Lumanu de Kananga. Nous parlons de l'entrepreneuriat, comment susciter l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes avec Michel Karacha, directeur général des Délions.
C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiokapi.net.
Kapala, vous êtes à Moba, bonjour.
Bonjour, monsieur Jédika Chambo, bonjour, Michel Kaacha. C'est en tout cas, je suis tellement content de pouvoir m'accorder cette parole.
Quelle est votre question?
D'emblée, j'ai dit, allô?
Quelle est votre question, Kapala?
Oui, ma question, c'est sur l'entrepreneuriat. Je ne connais pas qu'est-ce l'entrepreneuriat. Et d'entendre parler monsieur Michel Kaacha, il a donné la faute aux parents qui ne savent pas comment orienter leurs enfants. Mais cependant, il peut arriver que les parents orientent convenablement leurs enfants et que par après, comme nous entendons, comme l'entrepreneuriat nous dit souvent, parlant de l'entrepreneuriat, nous voyons des ressources humaines, matérielles plutôt, oui, les activités là. Mais par après avoir orienté, après avoir orienté, les parents n'ont plus de moyens. Comment est-ce que je veux vraiment orienter aussi longtemps que, pendant que les parents m'ont orienté, les parents avaient vraiment quelque chose. Mais arrivé au bout comme ça, les parents n'ont plus de moyens, n'ont rien à partir de ce moment-là. Que ferais-je, monsieur Michel Kaacha? C'était ma préoccupation, ma question que je voulais vous adresser, monsieur Michel Kaacha.
Merci, Kapala. Gentil Lumanu de Kananga, bonjour. Quelle est votre préoccupation?
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à notre invité du jour.
On vous écoute, gentil.
Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet très important. Je voulais demander, monsieur le journaliste, en premier lien, nous voyons tout d'abord l'État. Parce que si l'invité parle aujourd'hui, pourquoi? Parce que l'État n'a pas pris sa responsabilité. C'est l'État qui devait créer les emplois. Dès que les jeunes terminent comme ça, nous avons eu quand même des emplois. Mais ce n'est pas l'État chez nous ici. Mais par rapport au sujet d'aujourd'hui, je voulais demander à notre invité, un jeune qui vient de terminer ses études supérieures, comme il n'y a pas d'emplois, il a créé aussi ce business pour avoir quand même des argent. Il a exposé ce business-là en public. Est-ce que l'État congolais peut suivre ces jeunes-là pour payer les impôts ou bien il peut donner telle expérience? Parce qu'en fait, quelqu'un qui fait le commerce, qui fait une business, doit payer les impôts. Est-ce que l'État peut accorder telle expérience à ces jeunes-là pour commencer à payer aussi l'impôt? Merci, c'est la première question. La seconde question, l'invité peut, quels sont les moyens que l'invité peut mettre pour atteindre quand même les 26 provinces d'être formés aussi sur les créations des emplois? Merci, c'est gentil, le monde de Cana.
Bien, merci, gentil. Commençons par la question des Kapala. Il dit, les parents peuvent payer pour vous les études, mais après, s'il faut lancer un business, ils n'ont pas des moyens. Parlons à présent de la question des moyens, des fonds pour se lancer, Michel Kaacha.
Oui, c'est une question qui revient souvent dans les différentes conversations que j'ai, même avec des groupes de jeunes. Je crois, Focaliser la question de l'entrepreneuriat sur les ressources à mettre, c'est se tromper. Le plus important, je le dirai haut et fort et peut-être jusqu'au jour de ma mort, le plus important c'est d'abord l'idée. Quelle est l'idée qu'il y a derrière votre projet de business?
Pour trouver ce projet, cette idée de business.
Exactement. C'est-à-dire que je conseille à tous les jeunes, hein, d'avoir un cheminement en trois étapes. La première, c'est d'abord identifier quelle est la bonne idée? Quelle est l'idée que j'ai qui peut être matérialisée, qui peut devenir un business? Deuxième étape, donc je pars de l'idée, je fais un projet. Un projet, ça veut dire je veux lancer de manière très précise tel produit, tel service. Je vais m'adresser éventuellement à X, Y, Z profil de client. Voilà, c'est mon service s'adresse à ces personnes-ci. Leurs besoins, comment ils s'identifient? Quel est le moyen? Quel est le prix auquel ils peuvent payer?
Ça, il faut un business plan.
Ça, c'est la troisième étape. Quand je passe du projet à la matérialisation sous forme de business pour gagner de l'argent derrière, je fais un business plan, je fais un plan d'affaires. Je dois savoir, est-ce que je dois investir dedans? Est-ce que je dois avoir un espace pour établir mon projet? Est-ce que je dois recruter des personnes? Comment est-ce que je vais faire face à l'impôt? Toutes ces questions-là, quand je monte maintenant à la troisième étape, qui est l'étape de business plan, où même de manière sommaire, je dis voilà, chaque année je vais gagner autant, je sais me projeter sur un horizon de 3 ans au moins, en disant voilà, je commencerai à telle étape petit, voilà comment je vais grandir. J'ai cette visualisation de ce que je peux faire dans 3 ans, dans 5 ans. Lorsque je le connais, ça devient un business plan. C'est là que je peux parler d'entrepreneuriat.
C'est la deuxième étape. La première étape, c'est l'idée, concevoir l'idée.
Idée, projet, business plan. Voilà le cycle que moi je propose à tous les jeunes. Et donc, nous avons des gens qui ont beaucoup d'idées, qui se croient déjà être entrepreneurs. Non, vous n'êtes pas encore. Il y a des gens qui passent à un projet en disant, voilà, je vais mobiliser quelques ressources, ainsi de suite. Vous n'êtes pas encore entrepreneur. Vous êtes entrepreneur le jour où vous décidez que ça va devenir un business. Parce que les projets, même les ONG ont des projets, n'est-ce pas? Les initiateurs d'ONG ont des projets, mais ce ne sont pas des plans d'affaires. Les affaires, ça veut dire que je le fais en sachant que je vais gagner, je vais engager des ressources, je vais devoir payer pour certaines de ces ressources-là.
Alors à quel moment la question des moyens vient? C'est après avoir identifié ces trois niveaux.
Voilà.
Après avoir traversé ces trois niveaux.
Voilà, je dis. Je vais juste prendre 2 petites minutes encore, si vous permettez. Enfin, ceux qui ont fait des études d'économie vous diront, hein, en économie, on a en gros, hein, dans la théorie classique, on parle de trois facteurs, qui sont le capital, le travail et les ressources naturelles. Bien. Sachant que les ressources naturelles, c'est ce qui est disponible pour tout le monde. L'eau, l'air, c'est disponible pour tout le monde. Le problème reste sur les deux premiers facteurs. Le capital, ça veut dire les équipements, tout ce qu'on met derrière, les bâtiments, et le travail. Le travail, c'est ce que vous créez par votre tête, par vos bras, ainsi de suite. Et donc, il faut que nos jeunes, aujourd'hui, réfléchissent plutôt, non pas dans des projets qui sont très demandeurs en capital. Il faut que ce soit des projets qui sont très demandeurs en travail. Ça veut dire que si ce que je crée ne demande que ma force de travail, que mon intelligence à moi pour le traduire en un service, ben forcément je dépends un peu moins de ressources, je vais mobiliser moins de ressources. Ou si je conçois mon business plan de manière graduelle en disant que voilà, dans ma phase initiale, dans ma première phase, dans ma phase de lancement, je vais être plutôt capital intensif et travail intensif, faible capital, plus je grandis, plus j'augmente le capital, ça c'est la meilleure des approches. Et donc pour ça, je peux décider avec 2-3 amis, nous nous mettons à 3, nous allons ouvrir un salon de coiffure. Qu'est-ce qu'il nous faut? Une tondeuse. Une tondeuse, allez, sur le marché.
Et c'est tous les 3 doivent être des coiffeurs?
J'ai donné l'idée comme ça, hein. C'est juste une idée. Voilà. Donc, à 3, 3 tondeuses, c'est combien? $20 x 3, $60, ok. Une chaise en plastique, c'est $17 x 3. Donc, on peut démarrer.
Un cadre, un espace.
Voilà. Mais je demande aux parents où je prends le manguier parce que, c'est...
Sous le manguier, là, on commence là-bas.
On commence comme ça. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé ma créativité, mon talent en tant que coiffeur, ma force, je vais rester debout pendant quelques temps. C'est vers des idées de service, vers des idées de, n'ont pas de transformation, n'ont pas... Je vois des jeunes des fois venir me voir et dire, voilà, je voudrais faire un truc de ramassage d'ordures. Il me faut autant de véhicules pour les ramasser, pour ça, ainsi de suite. Et mon ami, mais si déjà un véhicule va te coûter 15, 20 000, 25 000 dollars d'occasion en plus, qui va lever cet argent pour toi? Qui va te donner ce capital-là? Mmh. Mais si je réfléchis, même si je suis le jeune brillant qui est terminé avec distinction, whatever, c'est pas ça le plus important. Si je dis, je vais d'abord pousser une brouette que j'ai achetée à 30 dollars et on est à 3, 4 amis, ben, sur notre avenue, c'est nous qui allons ramasser. Ce que ça va nous coûter comme capital de démarrage, c'est l'argent de 4 brouettes. Point barre. Et ça, au lieu de faire des grandes fêtes de collation de grade, ben je peux sortir une partie de l'argent de la collation ou refuser de faire une fête de collation
en disant que moi j'ai cet argent-là.
Exactement, j'ai un projet de service. Mmh. Donc les ressources, ce n'est pas le capital, ce n'est pas le plus important. Réfléchissez en service, réfléchissez en des projets, en des business plans basés sur des choses qui demandent que votre intelligence ou votre force de travail.
Et mais où trouver cette idée d'une affaire qui sera florissante?
Celui qui veut être entrepreneur, c'est quelqu'un qui d'abord regarde autour de lui. Constamment. Un homme d'affaires, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit des opportunités là où les gens voient que des difficultés. C'est-à-dire que dans nos besoins de tous les jours, imaginons un peu, je dis, vous vous réveillez le matin, vous devez brosser vos dents. Est-ce que vous êtes sûr que quand vous avez besoin de dentifrice, ça arrive au moment où vous le voulez, quand vous le voulez, au prix où vous le voulez? Si oui, tant mieux. Sinon, ben, c'est déjà une opportunité d'affaire. Vous avez besoin de vous laver le matin? D'où vient le savon? C'est déjà une opportunité d'affaire. Mmh. Les cure-dents, dans ce pays, ben, on a des arbres, on a, mais nous importons des cure-dents. C'est des opportunités d'affaire. Nous importons des bougies. C'est des opportunités d'affaire. Dans nos quartiers, il y a peut-être des gens qui peuvent encore se permettre de tailler leur jardin, de faire entretenir leur parcelle. Mmh. C'est des opportunités d'affaires.
Donc, tous les problèmes qu'il y a dans la société sont des opportunités.
C'est des opportunités. Mmh. C'est des opportunités. Et vous allez peut-être vous étonner, mais nous parlons des fois de multinationales. J'aime prendre cet exemple. Réfléchissez un instant. Coca-Cola, qu'est-ce qu'il fait? Coca-Cola est une multinationale qui a pris de l'eau, un peu de sucre, un peu de colorant, un peu de gaz carbonique qu'il a mélangé. Mais est-ce que c'est différent de celui qui fabrique le 5-glace dans sa maison? Il a juste industrialisé ce process-là. Donc derrière, nous pouvons faire... les géants ne font que les choses que nous faisons, mais auxquelles nous ne donnons pas cette valeur-là de business. C'est juste ça la différence.
D'accord, on va accueillir deux auditeurs, Gaston de Kinshasa et Amani de Kolwezi. Gaston, bonjour.
Merci, je vous salue aussi.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, disons, notre invité a bien parlé, surtout en ce qui concerne les opportunités et d'affaires que nous avons dans notre pays, donc, disons les champs où doivent œuvrer les entrepreneurs, ceux qui ont un esprit créatif. Mmh. Moi, je pense qu'il y en a dans plusieurs domaines, mais apparemment, on fait allusion qu'au domaine commercial, et pourtant, on en a, par exemple, sur l'aspect formation de la population, qui est, à mon avis, ignorante. Ça, c'est aussi un grand champ qu'on doit voir les gens investir dans ce domaine-là. On crée à nos limites. Par exemple, il n'y a pas d'unité dans les chefs de la plupart des tribus en RDC. Je pense qu'il doit y avoir des initiatives dans le sens de créer cette unité-là, la solidarité dans les chefs des Congolais. Ce sont des domaines aussi qu'on doit voir les Congolais investir leurs idées dans ces domaines-là. Ce serait vraiment une bonne chose. Mais je pense aussi qu'il a parlé plus de l'idée. Je voulais poser juste une question. Une personne, par exemple, on a pu constater que les Congolais ont plus l'aspect d'entreprendre dans le sens d'aller chercher, par exemple, l'emploi. Ils se lèvent le bon matin, ils prennent des idées, ils se lèvent, ils se lavent, ils passent chercher l'emploi par-ci, par-là. Ça aussi, c'est une manière d'entreprendre, à mon avis. Est-ce que vous ne voyez pas? Parce que les Congolais sont plus dans ce domaine-là, de créer les idées dans le sens d'aller demander les emplois dans le sens dans les chefs des employeurs, quoi.
D'accord. Merci Gaston. Amani, vous êtes à Kolwezi. Bonjour, quelle est votre question?
Bonjour JR. Je voulais intervenir par rapport au sujet du jour. Je vais d'abord commencer par brosser la structure de l'économie congolaise. JR, vous savez très bien que Les jeunes ont été habitués à la culture qu'ils ont hérité de leurs parents. C'est-à-dire, si un papa travaillait à la GECAMINE, l'enfant devait travailler et à la fin de compte être engagé à la GECAMINE ou à la SNCC. Cela a été déjà une culture. Et maintenant, aujourd'hui, la structure de l'économie est déjà paralysée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire sortir les enfants de la culture qu'ils ont hérité de leurs parents, afin qu'aujourd'hui, ces enfants-là deviennent des entrepreneurs potentiels aujourd'hui? Moi, je pense que nous avons deux problèmes que je relève là-dessus. Il y a premièrement le problème de culture, et un autre problème, c'est celui des modes de vie. Quand je parle de la culture, monsieur le journaliste, il faut voir que la formation débute dès le bas âge. Il ne faut pas que quand quelqu'un termine les études universitaires, qu'à ce moment-là, qu'il se trouve devant un fait accompli, et maintenant là, on lui propose quelque chose qu'il ne sait pas comment appréhender, il risque de faire une chose, mais sans toutefois avoir une certaine pérennité des actions.
D'accord.
Deuxièmement, nous devons avoir aussi la culture de la créativité.
Armani, quelle est la question que vous adressez?
Ma question est de savoir,
oui,
est-ce qu'il y a moyen de concevoir des cours et que cela soit dispensé aux jeunes dès leur formation primaire, secondaire, voire même à l'université. Comme ça, dès qu'ils terminent les études universitaires, ils auront l'idée et ils sauront savoir le défi qui les attend dans la société. Et par là, on n'aura plus de chômeurs dans ce pays.
D'accord, merci Yamani. D'accord, merci Michel Cage.
Oui. Pour revenir au premier intervenant, Gaston, qui nous appelait de Kinshasa, le fait d'être entreprenant dans la recherche de l'emploi ne fait pas de vous un entrepreneur. Un entrepreneur, ça veut dire c'est quelqu'un qui part d'une idée, met des ressources, mobilise des ressources et la matérialise pour faire une affaire avec. Donc, si c'est demander de l'emploi pour aller travailler sous les ordres, sous les services d'une structure existante, vous n'êtes pas encore entrepreneur. Donc, il faut juste faire un distinguo entre être entreprenant et être entrepreneur. Mmh. Par rapport à ce que notre dernier
Amani
vient de dire, c'est vrai, je ne suis malheureusement pas un spécialiste de l'éducation, surtout pas au niveau primaire. J'ai peut-être
c'est-à-dire que le manque d'esprit d'entrepreneuriat, c'est culturel, c'est lié à la culture.
Oui, mais je crois qu'on a parlé de ça en introduction. Mmh. C'est vrai que notre culture valorise le travail, vante les mérites du travail en entreprise plutôt que du travail du créateur d'emploi. Quand vous regardez dans d'autres pays, aujourd'hui un pays comme l'Allemagne, 80% de l'économie allemande est tenue par les PME. Ce sont les PME allemandes qui tiennent l'économie nationale. Les 20%, c'est les grands groupes comme les Volkswagen, les BMW ou je sais pas Bayer dans l'industrie pharmaceutique, qui fondent plutôt dans l'exportation. Mais l'économie locale, 80% est tenue par les PME. Donc il faut qu'effectivement aujourd'hui c'est mon rêve, mais il faut arriver à dire à nos jeunes gens, être entrepreneur c'est sexy, c'est beau, c'est bien, vous osez, vous prenez des idées, vous prenez des risques là où tout le monde a peur, là où tout le monde
Le gouvernement a déjà facilité les choses en créant le guichet unique de création d'entreprise. En trois jours, en peu de temps, avec peu de moyens, vous créez votre entreprise.
Exactement. Ça fait partie peut-être des réformes qui, dans le cadre institutionnel, vont faciliter les choses pour formaliser la PME, pour formaliser l'entreprise qui est créée. Mais il faut dès le départ partir d'une bonne idée, faire sa petite étude de marché, faire un projet, traduire ce projet en business plan et puis on va y arriver.
Mais comme ils ne savent pas comment faire le projet, comment se trouver une idée, cela demande un coaching, ça demande une formation.
Je ne suis pas un, même si je suis moi-même formateur, mais je ne suis pas un grand fan de cette culture aussi de tout doit passer par les cours, tout doit. Non, je m'excuse, mais quand vous lisez un peu autour de nous, regardez un peu autour de nous, Bill Gates, il est passé par quelle formation pour lancer Microsoft. Mark Zuckerberg, il a pris quel cours d'entrepreneuriat pour démarrer Facebook, pour rester un peu dans des choses qui sont contemporaines. L'entrepreneur, c'est d'abord cet esprit, cette volonté de démarrer quelque chose de cette croyance dans la force d'une idée, le fait que cette idée va rapporter de l'argent, et après décider de ramer, même si on ne connaît pas encore complètement la destination. Mais on va d'abord y aller. Ne pas rester dans la zone de confort, on va se dire, ben, je vais attendre d'abord qu'on vienne me former pour que je démarre.
Mais non. Il faut d'abord se lancer.
Il faut se lancer et puis se
la
faire accompagner.
La formation, on va
t'accompagner. Exactement, c'est de l'accompagnement.
Oui. Isaac nous appelle de Mbujimayi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, j'avais un peu de petites questions à poser à l'invité. Ma première question était de savoir, d'abord, ici en RDC, on a combien d'écoles techniques? Et dans ces écoles techniques là-bas, ces filières qui sont là, est-ce qu'on dispense les cours d'entrepreneuriat? Ça, c'est un problème aussi. Et alors, si quelqu'un a l'idée derrière sa tête, il a encore un projet, il a fait un bon projet qui demande, par exemple, 200 dollars. Il va déposer ce projet où? Parce que on a trouvé la plupart de jeunes, ils ont des idées devant, derrière eux, mais ils ne savent pas par où commencer. Je vais vous donner mon exemple à moi. Mmh. Moi, j'ai fait des maths informatiques. Mais aujourd'hui, j'ai une entreprise de menuiserie. Mais le problème, c'est quoi? Vous avez cette entreprise-là, il n'y a pas de subvention, l'État ne vient pas vous encourager, mais il y a trop de taxes qui interviennent encore. Moi, je pense que quelque part là, on est en train de décourager aussi les gens qui ont quand même des bonnes idées. Merci, M. Jodou.
Merci, Isaac, Michel Tage.
Oui, nous revenons encore sur la question de financement. Et j'aime bien l'approche de notre ami Isaac quand il parle des jeunes qui sont dans les filières techniques. Ça, c'est un cas concret. C'est que les filières techniques ont cette opportunité-là de former des jeunes qui peuvent directement utiliser leurs mains. Et donc, des jeunes qui sont capables de créer, des jeunes qui sont capables de produire d'abord avec leurs mains, ben pour moi c'est un gros vivier, c'est un vivier en termes d'entrepreneuriat, c'est un vivier en termes de potentiel de création d'opportunités.
Malheureusement, les écoles techniques sont presque négligées.
Malheureusement. C'est oui. Encore ça, la fameuse barrière culturelle dont
barrière on culturelle. Exactement. On pense qu'aller là-bas, ça vous diminue.
Ça vous diminue, oui. Alors que, voilà.
Mais lui, Isaac a fait les maths infos. Aujourd'hui, il a son atelier de menuiserie.
Exactement. Alors, quand il parle de d'où trouver le financement, il a donné un exemple très concret. Le jeune qui termine, qui a fait un projet, il a besoin de 200 dollars pour rassembler les petits équipements avec lesquels démarrer. Mais moi, je suis convaincu que ce jeune-là, quand il regarde dans sa famille autour de lui, il y a forcément un oncle, un cousin qui va vouloir lui faire une fête pour la fin de ses études. Ce jeune, c'est à lui de prendre le devant et de dire non. Laissez-moi, j'ai besoin de pas de fête. Ça va se passer dans la méditation. Ma vraie fête, c'est que les 200 dollars, les 50 dollars dont vous m'avez parlé, que moi je constitue un capital pour démarrer. Mais je vais faire un pas en arrière. Si je sais que pour monter, pourquoi attendre qu'on me donne 200 dollars pour démarrer mon projet? Si je sais qu'avec mes mains, je suis capable déjà de créer, pourquoi ne pas réparer une porte à gauche, fabriquer une chaise à droite? Je gagne 5, je gagne 10. Je fais de la constitution de mon capital de 200 dollars ben mon premier projet. Au lieu de croiser les bras et dire, je vais attendre, j'ai fait un projet de 200, maintenant vous venez, mettez-vous autour de moi, mettez de l'argent, État vient subventionner. Nous sommes un pays de 80 millions d'habitants. Disons-nous les vérités, nous sommes un pays de 80 millions d'habitants. Ça veut dire 80 millions d'entrepreneurs potentiels. Quelle est la taille de gouvernement qu'il nous faudrait? Quelle est la taille de cet État pour gérer 80 millions d'entrepreneurs? Ça n'existera jamais. Donc nous devons d'abord commencer par réfléchir en disant, ok, l'État, moi, je le mets de côté. Comment est-ce que je crée les ressources pour monter mon projet? Je fais du fait que je dois rassembler le capital, le premier objectif.
Alors c'est là que se pose le problème. Bon nombre de jeunes se découragent à ces niveaux-là.
Et exactement. Parce qu'on veut avoir la solution du capital. De la même manière que je suis allé à l'école, j'ai appris, on m'a donné de l'information, j'ai eu un diplôme, j'attends que quelqu'un m'amène le capital. Je suis désolé, mais dans notre configuration actuelle, ça fait partie de notre environnement, de notre difficulté. C'est ça la difficulté d'entreprendre au Congo. Mmh. Il faut savoir conjuguer avec. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui conjugue avec son environnement. Et donc, mon environnement, c'est un environnement où la disponibilité du capital peut être un souci. Et donc, je dois le constituer progressivement.
Pourquoi ne pas aussi créer un fonds de promotion de l'entrepreneuriat? On peut demander aux jeunes de s'organiser, 2, 3, 4, de créer un business et le fonds soutient.
Mais justement, quelle que soit l'idée de fond derrière, quand vous constituez un fonds, s'il est public, qu'il soit privé, pour attribuer ou donner une subvention ou n'importe quoi, une participation, mais il va y avoir une série de critères. On va mettre des critères en place. Exactement de la même manière qu'on nous dit en classe, ben pour que tu passes, tu dois avoir réussi en français, en maths, ainsi de suite, n'est-ce pas? Ben le fonds va avoir la même réflexion. Donc il faut que, et c'est là que je suis d'accord avec ceux qui ont parlé de l'éducation à l'entrepreneuriat à partir de l'école, il faut que dans nos cours, ce soit intégré aussi le fait que voilà, si tu veux monter une tu termines en menuiserie, je garde l'exemple de notre auditeur, tu termines en menuiserie, voilà comment on monte un plan d'affaires quand on veut monter sa structure de menuiserie. Ça peut être des cours en extra, ça peut être voilà, mais voilà comment ça se
structure. Souvent c'est des cours comme on donne seulement en économie ou pour ceux qui font de l'économie.
Malheureusement, et ce n'est pas dit que tous les économistes le comprennent très bien. ne vous en faites pas. On a des juristes qui sont meilleurs businessmen que des économistes.
Donc c'est des cours qu'il faut étendre dans toutes les filières.
Il faut les ouvrir à toutes les filières. Il faut rendre ces choses-là pratiques. Il faut que nos banques, nos institutions de microfinance, nos coopératives développe cette aptitude-là à aller vers les écoles, vers les universités, vers les centres de formation professionnelle pour encourager, susciter cela, montrer les gens aux jeunes en deux, trois séances. Voilà comment vous partez d'une idée jusqu'à un plan d'affaires. Comment est-ce que vous pouvez structurer un plan d'affaires lorsque vous ne pouvez pas dépasser 100 $, 200 $ de capital? Voilà.
Maintenant, les jeunes qui vous écoutent et qui ont des idées, comment peuvent-ils vous joindre s'ils ont besoin d'en savoir un peu plus?
Ben, je peux donner adresse email et numéro de téléphone. Je crois que le mail c'est le plus pratique parce que d'où qu'on soit dans le monde, on peut l'avoir. Donc mon adresse email c'est Michel en un seul mot, Michel kaha@yahoo.fr.
Kaha s'écrit comment?
KAHASHA.
@yahoo.fr. Yahoo.fr.
Voilà, allons sur celle-là.
Michel Kaha, en un seul mot, @yahoo.fr. Ouais. Donc, il peut vous écrire des partout
voilà,
pour avoir.
Nous sommes ouverts pour partager des idées, il n'y a pas de problème.
D'accord. Merci, Michel Kaha. Je rappelle que vous êtes spécialiste. Vous êtes DG, directeur général des Lions, et puis vous êtes coach aussi en entrepreneuriat. Voilà. Merci et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie et merci à Radio Capi pour avoir créé ce thème et permis de partager avec nos jeunes sur cette question de l'emploi, de l'entrepreneuriat.